Ok, ça enregistre. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode Mémo. C'est un format en solo et tout ce qu'on va se raconter, eh bien, ça se passe entre vous et moi. Eh bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast et encore un épisode en solo. Sachez que j'ai des interviews qui sont déjà enregistrées, mais j'attends encore un petit peu pour les sortir parce que on a une version vidéo maintenant. Et oui, on a. Je dis on alors que en vrai, c'est quand même moi qui ai fait les interviews, mais la prod a été améliorée et donc on a de l'interview vidéo. J'attends de finaliser 2-3 trucs, mais les prochains épisodes d'interview arrivent très très vite. J'espère qu'ils vont vous plaire. En plus, je prends des angles un peu différents parce que je suis allé chercher des créateurs et des gens que je connais bien et que j'apprécie qui n'étaient pas encore passés dans le podcast. Mais je les ai amenés sur des sujets différents de là où ils ont l'habitude d'aller. Donc j'espère que ça vous plaira. En attendant, au programme aujourd'hui, eh bien, on va achever, en tout cas pour le moment, la trilogie pricing. Je l'appelais comme ça parce qu'on est au 3e épisode d'affilée qui parle de stratégie de prix, de pricing, etc. Et surtout, je vais répondre à une nouvelle question que vous m'avez posée entre l'épisode de la semaine dernière et puis l'épisode d'aujourd'hui. Donc, on va notamment parler de est-ce que je dois parler de mes tarifs dans ma prospection? À quel moment j'en parle pendant un rendez-vous? Est-ce que le travail gratuit, c'est un bon truc? C'est quoi ton avis dessus? En tout cas, on m'a demandé mon avis sur le travail gratuit. Est-ce qu'il faut que je fasse des promotions ou bien des prix pour des clients récurrents? Est-ce qu'on peut avoir aussi un prix qui varie en fonction de sa charge de travail? Exemple, j'ai moins de boulot, je fais des prix plus bas. J'ai beaucoup de boulot, je fais des prix plus hauts. Est-ce que mettre un prix à partir d'eux sur son site internet, par exemple, ça peut être intéressant ou pas? C'est quoi mon avis là-dessus? Et ça fait déjà pas mal de sujets. Donc, on va aborder tous ces sujets-là. Ça va être très sympa. C'était pas prévu de faire un nouvel épisode trilogie, mais en vrai, le format vous plaît. J'ai plein de retours. J'ai eu des nouvelles questions. Donc c'est cool parce que c'était l'objectif pour celles et ceux qui étaient là depuis le début du format mémo fin décembre dernier. Eh bien, je vous disais, bah voilà, j'ai envie que ça soit un format interactif, que je puisse répondre à vos questions, etc. Bah, on y est, en fait. Il n'y a pas de plan de contenu à 3 mois sur ce format-là. Je fais aussi en fonction des retours, des questions que vous avez. Donc c'est cool. J'espère que ça vous plaît, en tout cas. Et je me dis, bah, là, on aura entre 2h30 et 3h de contenu lié au pricing sur le podcast. Je vais réfléchir à est-ce que je peux en faire un format écrit, une sorte de petit document un peu anti-sèche, etc. Je pense que ça pourrait être intéressant. Mais en tout cas, là, vous avez de quoi faire sur la partie pricing. Donc, si vous avez des copains qui se posent des questions sur ça, vous n'hésitez pas, bien évidemment, à leur envoyer ces 3 épisodes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petite intro comme toujours, si vous me découvrez avec ce podcast, et bien bienvenue, installez-vous confortablement. Je m'appelle Alexis Minkela et je suis le fondateur de Tribu Indé. Tribu Indé, c'est quoi? C'est un écosystème de contenu à la fois gratuit et payant pour accompagner tous les indépendants, consultants, prestataires de services à réduire leur stress, de ne pas trouver de nouvelles missions. Et pour ça, selon moi, c'est extrêmement important de travailler sur 3 gros piliers qu'on travaille avec l'écosystème Tribu Indé. Une offre et un positionnement carré, l'apprentissage de la vente pour facturer plus cher et aussi une organisation au service de votre croissance et de votre développement. Comme toujours, si vous avez envie d'en savoir plus, vous avez toutes les infos sur tribuindé.com et je crois que j'ai tout dit. On enregistre le jeudi 21 mars 2024. Je tiens la cadence d'un épisode par semaine. Je peux vous dire qu'en ce moment, c'est un peu chaud. Vous allez vite comprendre que je vais vous parler un peu de ce qui se passe en coulisses. C'est un peu chaud, je tire un peu la langue, mais pour l'instant on tient. Peut-être que j'aurai le droit à 1 ou 2 jokers dans l'année pour sauter un épisode, mais en tout cas je tiens le format et je suis très content. Donc on est jeudi 21 mars, il est 9h30, les oiseaux chantent et c'est le début du printemps. En tout cas, je sais que certains m'écoutent en courant, donc ne lâchez pas, pensez à bien respirer et puis voilà, bonne course. Et puis pour celles et ceux qui m'écoutent en faisant le ménage ou autre, profitez bien. Je voulais vous remercier aussi pour vos retours sur les 2 derniers épisodes du coup sur le pricing. Allez, aujourd'hui j'ai sélectionné 4 retours, mais encore une fois vraiment, vous êtes hyper sympa quoi. À chaque fois j'ai vraiment plein de retours, les retours s'essoufflent pas. Souvent c'est ça, c'est ah, il y a un nouveau format, cool et tout, j'ai des retours et puis au fur et à mesure j'en ai un peu moins. Bah là en fait ça s'essouffle pas et j'ai de plus en plus de retours à chaque fois, donc ça fait vraiment très très plaisir. Encore une fois, les épisodes je les crée aussi en fonction de vous, en tout cas les épisodes mémo, donc c'est cool d'avoir du répondant en face et c'est cool de voir que le format vous plaît. J'en ai sélectionné 4, alors my bad, le premier, j'ai fait une capture d'écran, mais j'ai oublié le prénom de la personne, donc je suis désolé. Ton message était génial, mais j'ai oublié son prénom. Donc, tu me disais, bonsoir Alexis, tes 2 épisodes sur le pricing tombent vraiment à pic pour moi, car je suis en pleine négociation avec plusieurs prospects qui veulent du récurrent. Les 2 épisodes étaient une mine d'or, merci beaucoup. On a Clémentine qui me dit, comme à chaque fois, idée brillante de sujet et pédagogie unique. Merci Alexis, tu remues mes neurones à 200%, je vais écouter ton podcast sur le sujet cette semaine. Et écoute, merci beaucoup Clémentine, j'espère que, entre-temps, tu as écouté le podcast. Et j'espère que tu l'as apprécié. On a Eline, qui est une petite nouvelle dans l'écosystème Tréviandé, puisqu'elle vient de découvrir mon podcast. Bravo pour ton travail et le contenu que tu proposes, c'est super quali et tellement utile. Eh bien, bienvenue, installe-toi. Il y a maintenant 119 heures de contenu sur le podcast gratuitement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même de la dévotion que j'ai pour vous à créer autant de contenu gratuitement. Le temps que j'y ai passé, je pense qu'il faut le multiplier par 4 ou 5 minimum pour ce podcast-là, mais c'est vraiment un plaisir et je suis très très content d'avoir du contenu que moi je juge intemporel parce que je ne suis pas du tout sur des hacks ou des strats, des trucs un peu court-termistes, un peu sales. Bah, on est sur des fondamentaux et en vrai, l'épisode de pricing, vous l'écoutez dans 2 ans ou 3 ans ou 4 ans, en vrai, je le construis pour qu'il soit encore d'actualité. Et enfin, on ramène un peu de parité quand même avec Kevin. Kevin qui me fait un nouveau retour sur le podcast. Vraiment très chouette. Ce mémo, le fait que tu insistes encore et encore sur la clarté de l'offre et du positionnement, l'importance des process, l'explication de la méthode délivrable aux clients, c'est vraiment top. Je suis en train de résister, mais mes défenses cèdent les unes après les autres. Je crois que je vais m'inscrire au réacteur. Bonne journée, Alexis. Merci pour ton travail. Eh bien, Kevin, ce sera avec grand plaisir de t'accueillir. Et d'ailleurs, je vais vous parler du réacteur parce qu'il y a quelques petites news qui arrivent. Donc, pour les prochains épisodes, partagez-moi vos thèmes, problématiques, challenges sur lesquels vous butez en ce moment et que vous rencontrez, sur lesquels vous aimeriez avoir mon retour d'expérience et mes retours sur vos questions. Ça me permet vraiment de prioriser les sujets que j'ai envie d'aborder sur le podcast. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Vous avez le droit de me faire un petit vocal, de m'envoyer un petit message sur Insta, sur LinkedIn. C'est là où je suis le plus actif. Voilà pour cette longue intro. On a 7 minutes. Oh, pas tant que ça, en fait. Je m'améliore sur les intros. Je fais de moins en moins long. C'est parfait. Bientôt, on sera à 2 minutes. Eh bien, sans plus tarder, on passe cœur de l'épisode avec la première partie coulisses et puis ensuite on rentrera sur le mémo de la semaine. Donc, qu'est-ce qui se passe en coulisses chez Tréviandé? Si vous ne connaissez pas encore le podcast et ce format solo, eh bien, c'est aussi l'occasion pour moi de vous raconter un peu ce qui se passe dans cette multinationale qu'est Tréviandé, bien évidemment. C'est faux. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que là, les dernières semaines, ouais, c'était un peu chargé. Là, je vous cache pas que le rythme était pas mal intense depuis 10 jours et ça risque de continuer jusqu'au 10 avril, à peu près. Après, je pense me reposer, mais on réattaque en mai avec les prêts quindés, les amis. Ça va être très très cool, j'ai très très hâte. Mais avant ça, ça y est, semaine prochaine. Donc semaine prochaine, je file à Bordeaux pour quelques jours pour justement enregistrer la version audio de mon livre. Ça y est, ça s'est fait plus vite que prévu. Je vous en avais un peu parlé sur les précédentes semaines où les droits audio avaient été rachetés. Eh bien, ça y est, j'enregistre, je file à Bordeaux en mode studio d'enregistrement et j'y passe 2 jours. 2 jours et demi, je crois. 2 jours, je sais plus. Enfin, je passe plusieurs jours à Bordeaux, mais l'enregistrement, je crois, dure 2 jours. Donc, ça va être très cool de relire mon livre, de me replonger un peu dans les 250 pages d'écriture. Je suis vraiment nostalgique de ce projet de livre. Je trouvais que je l'ai sorti vraiment au bon moment, où j'avais pas tant de projets que ça sur le feu. J'avais pas encore les bootcamps, les formations, etc. Et je trouve que je l'ai sorti au moment idéal. Et ouais, je suis nostalgique du process d'écriture. Franchement, j'étais un peu comme un moine, quoi. Je me suis déconnecté pendant plusieurs mois, j'écrivais le matin, l'après-midi j'étais quasiment off et tout, et hein, j'ai fait ça pendant plusieurs mois et c'était trop trop bien quoi. Donc peut-être qu'un jour je retournerai sur ce sujet livre pour faire un volume 2. D'ailleurs, donc du coup, si vous êtes à Bordeaux, j'y suis la semaine prochaine, envoyez-moi un message, ce serait cool de se voir, je connais pas beaucoup Bordeaux, bah, c'est l'occasion de vous rencontrer, on peut peut-être essayer de s'organiser un dîner si on n'est pas trop trop nombreux. Je me dis que ça pourrait être cool, ou au pire, aller prendre un petit verre ou un petit café-thé, voilà. Donc, je vous le disais, sinon, rythme bien intense depuis 10 jours, parce que, pour plusieurs raisons, notamment 4 raisons. La première, c'est que, eh bien, on arrive dans les dernières semaines du bootcamp avec la promotion 5, qui a commencé mi-janvier, qui dure 12 semaines, et on arrive sur les dernières semaines, donc on termine autour du 10 avril. Donc voilà, toujours aussi intense. Moi, c'est quasiment entre 3 et 4 heures de live par semaine, donc le jeudi et le lundi. Donc ça se passe très très bien, mais le rythme est quand même intense. Alors il l'est encore plus pour les participants qui ont encore plus de travail que moi, mais moi ça me demande une énergie aussi d'être à fond sur chaque live, mais c'est très très cool. C'est la fin du trimestre aussi, bientôt on est le 21 mars, le trimestre est bientôt terminé, avec pas mal de projets un peu en sous-marin, des trucs qui prennent plus de temps, prennent plus de temps que prévu, et des projets qui sont un peu plus long terme, notamment sur la fin d'année, et donc avec des annonces très très cool que j'espère vous faire bientôt, si ça se fait bien sûr. Donc ça, j'ai pas envie de me porter la poisse et de vous en parler avant que ça se fasse, mais si ça se fait, ouais,
Je suis en train de bosser sur des trucs assez cool pour la fin d'année. Je vous ai dit, en 2024, on y va à fond la caisse. Hein. Là, on met le pied au plancher sur l'accélérateur et on avance et on fait plein de trucs sur Trivian Day. Et puis sinon, eh bien, hier a eu lieu le dernier suivi collectif de la première cohorte du réacteur. Donc les suivis collectifs, en gros, le réacteur, donc, c'est la formation que j'ai lancée focalisée sur la vente. Donc niveau 1, offre et positionnement. Niveau 2, comment est-ce qu'on génère des opportunités, notamment avec son réseau et la prospection. Et puis niveau 3, eh bien, c'est comment est-ce que je convainc et je signe mes prospects. Donc en fait, on aborde plein de sujets sur les stratégies de prospection, les séquences email, la structure des messages, etc. La construction d'un appel prospect, mes scripts, des propositions commerciales, etc. Et donc tout ça, c'est de la vidéo, c'est des vidéos qui durent entre 10 et 15 minutes à peu près par vidéo. Et donc tout est hyper bien structuré là-dessus pour avancer pas à pas. Les niveaux sont débloqués au fur et à mesure. Mais parce que moi, je suis pas trop fan de ce format un peu formation en mode vous avez le contenu, débrouillez-vous. Eh bien, je fais un suivi collectif tous les 15 jours où en fait je réponds à toutes les questions. Et donc c'est un suivi collectif qui dure entre 2h et 2h15 où bien on tacle toutes les questions que bien la cohorte m'a posées. Et puis ensuite, les questions sont découpées, elles sont dans une base de données sur l'espace de formation Trivian Day. Et donc hier, c'est le dernier suivi collectif de la cohorte. Ça m'a fait bizarre parce qu'en vrai, ça faisait quasiment un peu plus de 3 mois qu'on se suivait. En tout cas, que je les suivais, je voyais un peu l'évolution de leurs questions, leur manière d'avancer. On a, comme d'hab, hein, vraiment des super victoires, des gens qui n'avaient jamais fait de prospection et qui ont signé des missions à plusieurs milliers d'euros. Donc ça régale vraiment. Et c'est pas une petite exception en mode, il y en a un. Il y en a vraiment énormément. On a des maxi-retours. On a plus d'une centaine de personnes qui ont répondu au questionnaire aujourd'hui et on a vraiment des super retours, donc ça, c'est très, très cool. Mais qui dit fermeture et fin de la cohorte 1 dit aussi préparation de la cohorte 2, parce que je suis en pleine préparation du lancement de la prochaine cohorte du réacteur. Donc, autant vous dire que préparer un lancement, même si moi, je fais des lancements plutôt minimalistes, c'est-à-dire que je ne fais pas de publicité, je fais pas de live Insta, ce genre de truc, ça m'intéresse pas forcément, en tout cas pas pour l'instant. Mais il y a quand même beaucoup de choses à faire, plein de micro-tâches aussi, d'automatisation, sûr que tout va bien sur tous les emails, etc. Donc voilà, c'est pas mal de boulot en ce moment, puisque j'ouvre en plus les portes. Donc les portes du réacteur ouvriront pendant une semaine, donc vous pourrez rejoindre pendant une semaine, entre le mercredi 3 avril et le mercredi 10 avril prochain. Donc notez la date si vous êtes intéressé au moins pour avoir de l'information, puisque c'est à ce moment-là que je communiquerai dessus, donc du 3 avril au 10 avril prochain. Et d'ailleurs, pour fêter un peu ce lancement de la cohorte 2, chose que je n'avais pas faite sur la cohorte 1, eh bien, je vais m'exercer à un nouvel exercice, voilà, qui est d'organiser une sorte de masterclass en live. Eh bien, c'est un truc que je n'ai jamais fait, bizarrement. Parce qu'en fait, les seuls lives Trivian Day que je fais, je mets de côté les webinaires, les conférences dans lesquelles on m'invite, hein, mais les seuls lives que j'organise avec Trivian Day, qui sont brandés Trivian Day, bien, c'est des break indés. Et c'est pas vraiment... Alors, je l'anime, mais c'est pas moi qui partage du contenu là-dessus, c'est plutôt mes intervenants. Et donc, ça va être très cool de me tester sur un nouveau format. Je prépare une sacrée masterclass. En vrai, je suis assez content. Le sujet, ça va être sur les blocages et les stratégies pour mieux vendre vos prestations. Et donc, ça marquera le début du réacteur. Ce sera full live, donc il n'y aura pas de replay. Et bien évidemment, si vous connaissez Trivian Day, vous ne serez pas surpris sur le contenu et la qualité. En vrai, je prends le risque de dire que ça sera très très quali, parce qu'il y aura du contenu, il y aura des conseils et il y aura aussi un petit cadeau pour celles et ceux qui seront présents, à la fois pour celles et ceux qui rejoindront le réacteur, et de manière générale, il y aura un petit cadeau pour tout le monde. Donc j'espère voir présent. Si vous voulez vous inscrire, bien sûr, c'est gratuit. Il y aura une seule date, donc c'est le mercredi 3 avril à 17h30, si je ne change pas la date entre-temps, enfin l'horaire. Et vous avez un lien en description pour vous inscrire et l'ajouter à votre agenda. Voilà, donc j'espère que vous serez là, j'espère vous voir nombreux. Ça me ferait plaisir de voir un petit engouement pour cette première masterclass et ça me permettra de me dire est-ce que c'est un bon format, parce qu'en vrai, c'est un truc que j'ai bien envie d'explorer, d'en faire une tous les trimestres. Et en plus, ça faisait partie de mes objectifs. Donc c'est parfait, c'est nickel. Voilà là-dessus. Et le réacteur, j'en reparlerai peut-être un peu plus la semaine prochaine, mais donc focus vente, trois niveaux à aller chercher avec des défis et des choses à débloquer à chaque fois. Et formation accessible à tous, puisqu'on sera à moins de 600 euros, toutes taxes comprises, donc moins de 600 euros TTC, j'ai pas encore le prix définitif, mais on sera, c'est sûr et certain, en dessous de 600. L'idée, c'est que ça soit accessible pour tout le monde. Alors vous allez me dire, ouais, mais attends, 600 euros, c'est... Enfin, si je prends la fourchette haute de 600 euros, c'est quand même pas si accessible que ça. La réalité, c'est que si, en fait, quand vous vendez de la presta, 600 euros, le ROI, il est quasiment direct. C'est-à-dire que vous signez une mission, en fait, vous avez rentabilisé le bootcamp, quoi. vous signez 2 jours de mission à 300 €, vous avez rentabilisé le bootcamp pour des compétences qui vont vous servir toute l'année, avec une cohorte, avec un esprit de promo, avec des groupes de responsabilité, avec un suivi qu'on fait avec Sonia qui m'accompagne sur le réacteur, enfin avec plein de bonus qui arrivent ad vitam aeternam. Franchement, c'est quasiment imbattable. Donc c'est pour ça aussi que moi je considère que c'est une formation qui est clairement accessible pour le niveau de qualité que je vous propose. Donc voilà, encore une fois, la masterclass le mercredi 3 avril. Si vous voulez nous rejoindre, eh bien vous avez un lien en description. Voilà, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus, sur un peu les coulisses. Et je continue ma petite routine sport avec, j'ai rajouté de la muscu. Muscu salle de sport pour devenir un maximal alpha. Non, je rigole. Mais en tout cas, par contre, je rigole pas sur le fait que je me suis mis à la salle de muscu. C'est très cool. J'ai des courbatures et c'est terrible. Mais en vrai, je kiffe la salle de sport parce que c'est un truc très familial. Personne n'est ultra bodybuildé, il n'y a pas de glace et de miroir dans la salle. Et donc ça, c'est très très cool parce que ça change pas mal l'état d'esprit des gens qui viennent dans cette salle-là. C'est une salle un peu plus haut de gamme que des salles classiques. Donc je pense que ça fait aussi le tri avec tous les bolos que je déteste dans les salles de sport. Donc voilà, c'est très cool. Ça me prend aussi pas mal de temps, mais je suis très content. Et bien, sans plus tarder, je vous propose de passer au mémo de la semaine. Donc, première question que j'ai reçue, c'est est-ce que je dois parler de mes tarifs dans mes séquences de prospection et quand je suis en train de discuter avec mes clients, ou bien j'attends le rendez-vous, et si j'attends le rendez-vous, à quel moment eh bien, je dois parler de mes prix et de mes tarifs? Alors, mon point de vue là-dessus, c'est ne parlez jamais de vos prix en prospection. Ce que j'appelle la prospection, c'est toute la phase avant de faire un premier appel avec un prospect ou bien d'envoyer une proposition commerciale. Il ne faut pas oublier un truc, le but de la prospection, ce n'est pas de vendre tout de suite votre prestation. Ça paraît bizarre de le dire comme ça, mais je le redis, le but de la prospection, ce n'est pas de vendre tout de suite votre prestation, c'est d'engager une discussion qui va permettre d'échanger sur une problématique commune que vous avez avec le client pour lui proposer une solution. Vous voyez, moi je prends souvent cette métaphore-là de lorsque vous postulez un job en CDI, la lettre de motivation, elle ne sert pas à décrocher un job. La lettre de motivation, elle sert à intéresser suffisamment le recruteur ou le responsable RH pour se dire, tiens, cette personne-là, elle est intéressante, il faut qu'on puisse l'avoir en rendez-vous, enfin en entretien. C'est pareil pour la prospection. La personne doit se dire, ah ok, intéressant, je comprends, elle a bien cerné ma problématique, cette personne a l'air sérieuse et crédible, j'ai envie de l'avoir en appel pour creuser un peu le besoin. Donc, prospection, c'est quoi? C'est, je suscite l'intérêt, j'identifie un challenge, un objectif à tacler et je commence petit à petit à démontrer ma crédibilité en fonction des différents échanges que je peux avoir ou des différents mails que je vais envoyer, etc., etc. Donc en fait, à ce moment-là, vous n'êtes déjà même pas en train de pitcher une offre, vous pitchez un positionnement, vous pitchez des problématiques que vous résolvez, mais vous n'êtes pas en train de pitcher une offre puisque en vrai, à ce stade-là de prospection, en théorie, vous n'avez pas suffisamment encore d'informations sur le besoin bien précis que le client a par rapport à une problématique plus globale. Donc ça, c'est vraiment important. Maintenant, pendant le rendez-vous, est-ce que une fois que mon prospect m'a dit « Ok, intéressant, ça serait cool qu'on s'en parle, on se fait un call, etc. » Est-ce que vous devez en parler pendant l'appel, qui est un appel généralement de prise de besoin? Selon moi, oui, mais à une seule condition. Si vous avez toutes les informations nécessaires pendant l'appel pour proposer un pricing dès le démarrage. Ce qui se passe, c'est que si vous commencez sur une nouvelle offre ou que vous venez de vous lancer en freelance, etc., selon moi, vous n'avez pas suffisamment encore d'expérience pour pouvoir, en quelques minutes, en écoutant à la fois le client, en posant des questions, etc., vous dire « Ok, ça, je pense que c'est une mission qui va me coûter, qui va coûter tant à mon client. » Si vous n'avez pas le recul nécessaire de voir « Tiens, sur ce genre de mission, je sais que je passe à peu près tant de temps, etc. », je ne vous conseille pas de donner un prix à la volée parce que c'est le meilleur moyen de paniquer et de dire un prix sur lequel vous allez regretter après. Parce qu'à partir du moment où vous annoncez un prix à un client sur un appel, vous pouvez pas lui dire ça coûte 2000 et en fait quand vous faites votre propal je suis revenu dessus, j'ai bien calculé, en fait ça a coûté 3000. Non, là il y a un effet déceptif qui est pas très très bon. Donc en fait, vous pouvez le faire si un, vous avez le niveau d'information nécessaire pour prendre une décision sur le fait d'accompagner ce client-là et à quel prix. Et ça nécessite d'avoir un recul suffisant sur le temps que vous passez sur ce genre de problématique-là et donc d'avoir des offres qui sont très claires et standardisées dans leur exécution. Qu'est-ce que ça veut dire une offre qui est standardisée dans son exécution? C'est-à-dire que quand vous prenez cette problématique-là, vous savez exactement le process par lequel vous allez passer pour résoudre la problématique de votre client. Donc en fait, vous savez exactement les étapes d'exécution que vous allez faire. Étape 1, étape 2, étape 3, livrable 1, livrable 2, livrable 3, etc. Le résultat de votre prestation et le contenu que vous allez délivrer dans les livrables, et bien évidemment, il est différent en fonction de chacun des clients, mais l'exécution, elle, elle est standardisée. Ok, donc ça, c'est vraiment important. Tant que vous n'avez pas ça, en fait, vous ne pouvez pas être capable de packager des prix, de packager une offre, etc. Et en fait, c'est impossible d'avoir une bonne équation parfaite sur le prix. Si vous n'êtes pas encore à ce niveau-là, ce qui est finalement assez rare, surtout quand vous avez assez peu d'expérience sur le fait d'avoir des offres claires et standardisées, ce que vous pouvez avoir, c'est ce que moi j'appelle un ancrage, c'est-à-dire de se dire, mon offre pour ce type de prestation-là démarre à X euros. Ça, ça peut être intéressant parce que ça permet de faire un premier ancrage plus ou moins haut en fonction de ce que vous avez envie de mettre sur la table pendant votre négociation client. Ça, c'est le premier point. Mais ça permet aussi tout de suite de débunker d'éventuelles objections que vous allez pouvoir avoir sur le prix. Si par exemple, je vous dis, moi, sur une offre de copywriting, quand il faut revoir une page de présentation d'un produit, moi, mon offre démarre généralement à 3000 euros. Est-ce que c'est ce que vous aviez en tête, au moins sur un prix plancher? Ah non, ah oui, effectivement, je ne pensais pas que c'était ça. Nous, on avait plutôt en tête 1000, 1500 euros. Ah ok, du coup, qu'est-ce que vous aviez en tête dans ces 1000, 1500 euros? C'est quoi l'idée que vous aviez sur le périmètre complet de cette prestation-là, etc. Et donc, ça vous permet de creuser l'objection, de la débunker si besoin et d'expliciter pourquoi est-ce que vous avez mis ce prix-là sur cette prestation-là. Donc ça, c'est intéressant parce que là, vous ouvrez vraiment la discussion sur l'objection prix, qui est l'objection la plus forte. Et donc ça, ça peut être intéressant. Mais encore une fois, ça vous demande d'être sur ce prix d'ancrage-là, d'être au clair sur comment est-ce que vous avez structuré vos offres. Il se trouve que, bien évidemment, on en parle dans le réacteur. Je vous refais un petit rappel ici, mais vous pouvez travailler tout seul. Mais c'est important de le travailler. Enfin, vraiment, j'insiste là-dessus. Parce que, en fait, l'offre et le positionnement, ce que vous proposez, à quel prix, dans quel standard, avec quel livrable, etc. En vrai, c'est à la base de tout ce qui découle après, que ce soit aller choper votre réseau, votre prospection, votre structure de business, vos process, votre marketing, etc. Si vous n'êtes pas au clair sur ce que vous vendez. Et être au clair, ce n'est pas juste moi, je fais du marketing ou moi, je fais la création d'articles. C'est quoi les pain points de mes clients, c'est quoi le client idéal, à quoi il ressemble, c'est quoi les critères objectifs que je peux attaquer, c'est quoi les différents angles d'attaque que je peux avoir pour vendre le bénéfice de créer des articles, etc. Et ça, c'est ce qui manque à quand même malheureusement beaucoup, beaucoup de freelance. Maintenant, il y a l'autre choix, ça c'est dans le cas où potentiellement vous faites un seul rendez-vous, vous avez suffisamment d'informations, vous travaillez une proposition commerciale et puis proposition commerciale envoyée. Maintenant, si vous faites deux rendez-vous, c'est-à-dire je fais une prise de besoin et ensuite je propose ma roadmap et mon budget sur un deuxième rendez-vous, dans tous les cas, forcément, vous parlez du prix sur un deuxième rendez-vous. Mais dans tous les cas, ce qui est vraiment important, et je me l'ai noté pour vraiment pas l'oublier, c'est que c'est important que vous puissiez tacler les objections de prix en direct. Okay? Parce que ça vous permet aussi de récupérer des insights sur la suite, sur « Ah tiens, en fait, ça fait trois clients qui me disent que je suis vraiment beaucoup plus cher par rapport aux alternatives. Il faut que je bosse mon discours sur pourquoi est-ce que je suis meilleur que les alternatives qui s'offrent à mon client. » Donc ça, c'est vraiment important parce que, en fait, si vous envoyez juste une propale comme ça et que vous ne faites pas forcément de rendez-vous, alors bien sûr, si vous envoyez une propale à 500 euros ou 1000 euros, c'est peut-être pas la peine, quoique 1000 euros, ça commence à être intéressant de faire au moins un appel, au moins quand vous démarrez, parce que vous vous confronterez directement au client. Mais en fait, si vous envoyez une propale à 5K par mail, en fait, c'est dommage parce que vous n'allez pas avoir les raisons pour lesquelles, si jamais ça ne signe pas, pourquoi est-ce que ça ne signe pas? Votre client va vous bullshiter par mail parce que vous n'allez pas avoir le vrai contact que vous auriez pu avoir si vous étiez en live avec cette personne-là. Et donc, c'est vraiment important de tacler les objections de prix pendant l'appel. Donc, c'est-à-dire à la fin de l'appel, une fois que vous avez présenté votre prix, OK, vous marquez une pause et vous le questionnez. Qu'est-ce que tu penses de ces prix-là? Est-ce que c'est ce que tu avais en tête, etc.? Est-ce que ça te paraît clair? Est-ce que tu comprends bien les différentes étapes par lesquelles on passe? Est-ce que tu comprends bien l'importance de chacun des livrables, etc., etc.? Ça, c'est important, mais du coup, ça nécessite de vous préparer à ces différentes objections. Donc là aussi, très important de travailler un script qui répond aux principales objections que vous allez voir sur le prix. Sur le prix en tant que tel, il y a souvent... Allez, il y a 3-4 objections qui reviennent très souvent. C'est vous êtes plus cher que d'autres freelances, pourquoi? Je ne m'attendais pas à ce prix-là. C'est quoi le retour sur investissement de votre prestation avec un prix comme celui-ci? Et puis ramener à la journée, en fait, ça fait combien? Donc, par exemple, vous êtes plus cher que d'autres freelances, pourquoi? Là, c'est intéressant de comprendre et de faire parler votre client sur ok, c'est quoi les autres alternatives? Est-ce que vous avez échangé avec d'autres freelances? Est-ce que vous avez échangé avec des agences? Est-ce que avec qui vous avez échangé? Qu'est-ce qu'on vous a proposé? À quel prix? Ok, c'était quoi l'expérience des autres freelances? Si on compare les offres en termes de profondeur d'exécution. Est-ce qu'il y avait plus de choses? Il y avait moins de choses? Ah, pourquoi il y avait moins de choses? Ok. C'est quoi leur fait d'arme à eux? C'est quoi leur niveau de crédibilité, etc. De questionner en fait votre client là-dessus, parce que c'est votre client qui va faire en fait sa propre réponse à cette objection-là. Ah oui, effectivement, vous êtes plus cher, mais bah, c'est vrai que vous avez déjà plus d'expérience, vous avez déjà travaillé avec des clients similaires, votre méthodologie a l'air plus cadrée, etc., etc. Et en fait, bah, vous voyez que le client il répond directement à cette objection-là. Pareil, je ne m'attendais pas à ce prix-là. Bah, l'idée, c'est d'aller creuser. OK, pourquoi est-ce que ce prix, il semble élevé pour votre client? Donc là, c'est de le creuser cette partie-là. Le ROI de votre prestation, à vous de travailler votre discours. Et puis, la question qui est déstabilisante souvent, c'est OK, ça coûte 3000 euros, mais ramenez du coup à la journée, vous êtes à combien, vous, la journée? Et ça, généralement, bah, si on ne s'est pas préparé, bah, on lâche son prix TJM et le client fait le calcul. Il se dit non, mais en fait, je suis à 300 TJM. Ah, vous n'avez pas besoin de 10 jours pour faire ça. Et donc là, moi, ce que j'aime bien dire, je peux vous donner 2-3 tips, mais encore une fois, c'est à vous de créer votre script, c'est bah, moi, je ne facture pas au temps passé. Ce qui compte, c'est que vous puissiez avoir un résultat et que vous soyez satisfait de la prestation. On est bien d'accord? Oui, on est d'accord, etc. Donc voilà pourquoi est-ce que moi, je ne facture pas au temps passé. Et d'ailleurs, si je facture au temps passé, bah, vous prenez le risque, vous, en tant que client, que j'y passe plus de temps et que du coup, ça vous coûte plus cher. Là, quel que soit le temps que j'y passe, le but du jeu, c'est que vous soyez satisfait de la prestation. Si je dois y passer plus de temps que prévu, eh bien, c'est mon affaire. Ce qui est important, c'est que vous soyez satisfait et qu'on atteigne les résultats qu'on s'est fixés, les objectifs qu'on s'est fixés en début de prestation. Est-ce que ça vaut de fonctionner comme ça? Vous voyez, là, je vous l'ai fait rapidement, mais le script est à développer là-dessus. Voilà un petit peu ce que je pouvais répondre à cette question sur est-ce que je dois parler de mes tarifs en prospection pendant le rendez-vous, etc. Donc, on passe à la prochaine question sur le travail gratuit. Qu'est-ce que j'en pense? C'est quoi mon avis là-dessus? Mon avis est peut-être différent de ce que vous allez pouvoir entendre, donc ne partez pas, parce que oui, je trouve que le travail gratuit est un très bon conseil. Mais ne partez pas, laissez-moi m'expliquer, laissez-moi me justifier s'il vous plaît. Moi, j'aime bien penser que tous nos clients ou nos prospects nous attribuent un score, parfois de manière inconsciente, et la plupart du temps c'est inconscient, mais c'est un score qui, comme vous, vous êtes en train de scorer votre prospect en disant « Attends, est-ce que c'est un bon prospect? Est-ce qu'il a le budget? Est-ce qu'il ne va pas être trop chiant, etc. ben, » La réalité, c'est que votre client, il fait la même chose. Et donc, votre client, il se pose plein de questions. Est-ce que la personne que j'ai en face de moi, elle est suffisamment expérimentée pour répondre à mon besoin? À quoi ressemble son portfolio et ses anciennes missions? C'est quoi ses références? Est-ce que ces références-là, elles sont cohérentes par rapport à mes problématiques, à mon niveau de business, etc. Est-ce qu'il a vraiment compris mes problématiques? Est-ce que cette personne m'inspire suffisamment confiance pour m'accompagner, etc. Donc en fait, vous voyez, et c'est parfois de manière inconsciente, mais c'est intéressant de les ressortir parce que c'est les questions et c'est les points sur lesquels votre client a besoin d'être rassuré. Le truc, c'est que quand on débute en freelance de manière générale, on débute sur un nouveau marché, on débute sur une nouvelle offre qu'on est en train de proposer, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue parce que vous avez besoin de faire pour valider votre offre, mais vous n'arrivez pas à convaincre vos clients parce que vous n'avez pas assez d'expérience pour le rassurer. Pour avoir de l'expérience, eh bien, vous avez besoin de tester votre offre. Et pour tester votre offre, eh bien, vous avez besoin de mission. Okay? Donc, c'est pour ça que moi, je pense que le travail gratuit, ce n'est pas un ennemi contre lequel il faut sans cesse se battre. En revanche, eh bien, c'est le choix de vouloir travailler gratuitement et d'offrir une prestation. Ça doit, un, être stratégique pour vous, et deux, ça ne doit pas être subi. C'est-à-dire que c'était à vous de proposer ça. Si un client vous dit, est-ce qu'on peut faire un truc test? Est-ce que tu peux vraiment baisser ton prix là-dessus, etc.? Red flag, 100%. Okay? Le travail gratuit doit venir, ou offrir une partie de votre prestation, ça doit venir de vous. Okay? Ça ne va pas être un truc qui est contraint, que vous choisissez sous la contrainte. Voilà, moi je trouve que beaucoup critiquent le travail gratuit. Moi, je pense que c'est une bonne chose pour en fait monter en compétence. Et dans tous les cas, quand vous commencez, vous n'avez pas de client, vous avez du temps libre. Donc, autant que ce temps libre, OK, vous ne facturez pas, mais au moins, vous prenez en compétence. C'est un logo client supplémentaire, c'est un client satisfait, c'est des choses à montrer, etc. Et donc, parfois, il vaut mieux dire, OK, je fais une, deux missions gratuites pour démarrer. Et en fait, je retrouverai ma mise parce que je pourrais facturer beaucoup plus cher, beaucoup plus vite, parce que j'aurai tout de suite beaucoup plus d'expérience que d'autres freelances, par exemple, sur un sujet bien précis. Donc, pour moi, le travail gratuit, il est intéressant dans deux cas. Le premier, c'est que vous avez besoin d'acquérir de l'expérience ou de développer votre portfolio. Et le deuxième, vous avez du temps libre pour prendre des projets parce que vous n'avez pas suffisamment de clients et donc why not? Et donc moi, c'est ce que j'appelle les projets stratégiques sur lesquels vous avez envie de signer. Donc ça peut être du travail gratuit, mais ça peut être du travail aussi très très peu rémunérateur par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Donc j'insiste sur un truc. C'est important que ça soit pas le client qui vous demande de travailler gratuitement. Donc, par exemple, les clients qui vous disent, bah là, on n'a pas trop de budget en ce moment, est-ce que tu peux faire un effort? Ou, bah, on te propose de travailler gratuitement sur ce projet, mais t'inquiète, on a plein de gros projets qui arrivent si ça se passe bien. Ou bien, bah, on n'a pas trop de budget, mais tu sais, on a un gros raison pour être recommandé à tous nos partenaires, c'est gagnant-gagnant. Ça, c'est no go. C'est énorme red flag. Parce que là, vous vous retrouvez face à des clients qui ont pas suffisamment, enfin, qui voient pas suffisamment de valeur dans ce que vous leur proposez et qui essaient de négocier du low cost. Et nous, les clients low cost, on n'en veut pas. OK? Surtout quand on vend de la prestation de service. Donc à vous aussi de peser pour et le contre sur, moi ça m'est déjà arrivé de travailler pour très peu cher, notamment pour une boîte qui s'appelle Welcome to the Jungle, qui était en fait un super logo pour moi parce que j'adressais les startups, et donc en fait quand j'adressais les startups, toutes les startups regardaient Welcome to the Jungle parce que grosse fame d'un point de vue média, très bon contenu, et puis outil utilisé pour beaucoup de startups. Et donc le fait d'avoir écrit chez eux, bah, c'était un tampon qui était intéressant quand tu faisais du contenu pour des startups. Et donc, j'étais OK de me dire, bah vas-y, je facture moins cher que prévu, mais je sais qu'en fait, je vais gagner d'autres choses. Donc, je vais gagner en crédibilité, je vais en gagner en visibilité parce que bah, je signais en mon nom les articles. Et puis, je sais que je vais progresser rapidement parce que ça me permet de voir aussi une boîte qui produit autant de contenu, c'est quoi un peu les process, à quoi ressemblent les briefs, etc. Et donc, en fait, ça, c'est toute l'information qui est certes pas de la formation monétaire que je facture, mais en fait, c'est plein de montées rapides en compétences que je vais pouvoir prendre. Donc, j'avais trois critères pour me dire est-ce que cette mission-là, j'accepte de la faire pour moins cher ou voire gratuit. C'est est-ce que c'est une mission qui permet de progresser rapidement et de gagner en compétences sur des sujets que je maîtrisais moins? Est-ce que c'est une mission qui va me permettre d'augmenter drastiquement ma jauge de crédibilité? Et est-ce que c'est une mission qui va me permettre de développer mon réseau ou ma visibilité par la même occasion? Mon réseau, parce que c'est une boîte qui est extrêmement connectée et je sais que je vais pouvoir demander consciemment des mises en relation vers d'autres boîtes que j'avais déjà en tête dans mon CRM, ou bien visibilité parce que bah, je peux signer en mon nom, je peux communiquer hyper facilement dessus, etc. etc. Donc, en fait, c'est à vous de faire cette jauge-là, mais moi, je trouve que c'est vachement intéressant. Et par exemple, c'est ce que j'ai fait au démarrage. Quand j'ai commencé Tribu 1D, j'ai participé à un nombre incalculable de conférences et de webinaires qui étaient complètement gratuits. C'est-à-dire qu'on ne me rémunérait pas pour les faire. Donc, j'ai passé énormément de temps à préparer mes interventions, à me rendre disponible le jour J, etc. Mais je savais que ces opportunités-là, elles me permettaient de toucher un nouveau réseau, elles me permettaient de prendre confiance en moi sur le fait de faire des conférences, des lives, etc. Et ça me permettait de me roder. Donc en fait, j'étais OK pendant un moment, de ne pas être payé pour faire ce genre de webinaire et de conférence, parce que je savais que j'y gagnais autre chose. Aujourd'hui, bien évidemment, bah en fait, j'ai suffisamment de crédibilité, j'ai bossé ce que j'avais à bosser sur ça. Maintenant, bien évidemment, je ne fais plus de conférences et de webinaires gratuits, mais je l'ai fait pendant un certain moment et j'étais très content de le faire et j'ai aucun problème à dire que ça a été le cas et moi, je pense que c'est une bonne chose. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur la partie travail gratuit. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, en vrai, très curieux d'avoir vos retours d'expérience en vrai. Donc, n'hésitez pas à me dire pourquoi est-ce que vous êtes moins d'accord avec ça, etc. Toujours intéressant de pouvoir échanger. Alors, nouvelle question sur qui va être assez rapide, c'est est-ce qu'il faut faire des promotions sur ces œuvres de service, que ce soit des promotions pour des clients particuliers? Donc là, par exemple, bah, effectivement, si je reprends ce que je viens juste de dire avant sur le travail gratuit, vous pouvez offrir certaines parties si c'est intéressant. En revanche, des promotions publiques, de dire « Ah bah voilà, c'est Noël, machin ». Je l'ai vu, hein, véridique, dans des groupes Facebook dans lesquels j'étais. Promotion Halloween, promotion Black Friday, ça je l'ai vu beaucoup, promotion Black Friday, et promotion Noël, c'est la fin d'année, il vous reste un peu de budget, etc. Mes offres sont à moins 30%, ça je l'ai vu, c'est terrible, je trouve ça terrible, et je trouve ça d'une tristesse absolue. On n'est pas un putain de bien de consommation, quoi, merde. Enfin, on vend de la presta de service et notre intelligence, on va pas se mettre au même niveau qu'un téléviseur, quoi. Vraiment, moi, ça me rendait fou. Et parfois, dans certains groupes, je me suis retrouvé à dire, mais pourquoi tu fais ça? Et à me retrouver limite à me faire insulter en mode mais tout le monde fait ça, c'est la norme, c'est le marché et tout, etc. Enfin vraiment, certains groupes Facebook obscurs avec 3000 freelances dessus, en vrai c'est catastrophique. Donc moi ce que je vous conseille, plutôt que de faire des promotions estivales, printanières, machin, quand vous avez des clients qui n'ont pas forcément le budget et que vous avez absolument envie de bosser avec eux, la première stratégie à faire avant de se dire bah ok j'offre une partie du projet, c'est de vous dire et de vous questionner avec le client bien sûr, ok comment est-ce qu'on peut réduire le périmètre du projet pour que la finalité soit la même, mais eh bien, que le budget soit moindre. Pour que la finalité soit la même, mais que le budget soit moindre, bah, ça veut dire que certaines étapes de votre prestation, à quel point est-ce que vous pouvez confier ces étapes-là à votre client? À quel point est-ce que vous pouvez faire travailler votre client sur ces étapes-là, sur le travail préliminaire, sur etc., pour que vous puissiez gagner du temps? Ça, par exemple, ça pourrait être vachement intéressant. Je sais pas, par exemple, si vous êtes graphiste, bah, plutôt que de passer vous 3 heures à faire un mood board, à quel point vous pouvez donner les outils à votre client pour qu'il puisse réaliser lui-même un mood board, par exemple. Donc, à vous de réfléchir sur chacune de vos compétences. Est-ce que tout ce que vous faites dans une mission, c'est 100% vous qui détenez la connaissance ou le savoir, ou bien vous pourriez créer un petit process qui permettrait à votre client d'être responsable et de pouvoir mettre la main à la pâte dans la prestation, moyennant bah, un prix qui est moins élevé. Donc vous n'êtes plus sur du done for you, c'est-à-dire vous faites tout pour le client, mais vous êtes sur un done with you, c'est-à-dire que vous faites avec le client une partie des tâches et confiées à votre client. Et donc vous, vous passez moins de temps, donc forcément vous pouvez aussi facturer un peu moins. L'autre point aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de dire, par exemple, quand vous avez des clients qui vous disent, bah, nous, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est on fait un test offert, enfin, on fait un test gratuit, on fait. Donc, c'est beaucoup sur les métiers rédac, etc. Mais je pense que c'est. Enfin, je serais curieux de savoir si ça existe dans beaucoup, beaucoup de métiers, mais c'est assez commun. Moi, ce que j'aimais bien dire, bien évidemment, bah, au début, travail gratuit, etc., je le faisais. Et à un moment, plutôt que de dire bah, non et de prendre la mouche en mode non, moi, je ne travaille pas gratuitement, machin, ciao. Bah, le discours que j'avais et qui marchait bien, c'était moi, je ne fais pas de test gratuit. En revanche, ce que je vous propose, c'est je vous facture ce test-là, mais si on travaille ensemble par la suite, eh bien, je ferai un effort commercial sur eh bien, la proposition commerciale que je vous ferai sur la suite parce que je vous aurai facturé cet article ou ce test offert. Dans les faits, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste que si vous avez facturé, j'en sais rien, 150€ votre test, bah, vous augmentez de 100€ votre propal à la fin et in fine, vous y retrouvez plus ou moins, quoi. Donc, sauf que vous aurez fait une promotion et le client sera très content de ça. Bah, c'est ce que je vous conseille de faire et c'est ce que j'ai fait quelques fois. Parce que votre client n'est pas à 200 ou 300 euros près. Encore une fois, si vous bossez avec des entreprises, ce que je vous conseille de faire, les indépendants, solopreneurs ne sont pas une bonne cible quand vous vendez de la prestation de service. Je le dis, je le redis et je le répéterai encore et encore. Question suivante sur est-ce qu'on peut avoir un prix qui varie en fonction de sa charge de travail, comme les billets SNCF par exemple. Je suis en période creuse, je baisse mes prix. Je suis en période de pic, je monte mes prix. Sauf pour une clientèle récurrente si j'applique ce que tu as dit aujourd'hui. Donc par rapport à ce que je disais sur l'épisode précédent. Selon moi, ouais, c'est carrément possible. Du coup, bah, en fait, par contre, il ne faut pas les afficher, quoi. Donc oui, c'est carrément possible. En revanche, selon moi, pour que ça soit vraiment pertinent, ça nécessite d'être très au clair sur votre suivi d'objectifs. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, je pense que la réflexion, elle n'est pas aussi simple que « Ah, bah, j'ai pas de clients, je baisse mes prix de 50%. Ah, j'ai beaucoup de clients, j'augmente mes prix de 50%. » Parce qu'en fait, dans une année, vous n'avez pas 50% de votre temps où vous avez moins de clients et 50% de votre temps où vous avez plus de clients. Donc, en fait, encore une fois, vous pouvez le faire, mais sinon, c'est à la louche. Et le risque, c'est que, bah, vous, en fait, en jouant là-dessus un peu au doigt mouillé, vous ne soyez pas au clair sur vos objectifs financiers à atteindre sur l'année. Pourquoi? Parce que si vous baissez trop vos prix, bah vous risquez de ne pas tenir les objectifs et de faire des trop grands écarts entre bah, votre prix minimum et votre prix maximum. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de faire le point, par exemple, chaque trimestre, de dire « Ok, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis un peu en retard sur mes objectifs ?» Et de se dire « Ok, je suis un peu en retard sur mes objectifs et en plus, je n'ai pas beaucoup de clients en ce moment. Bon, bah, du coup, je vais aller chercher un peu plus de volume que d'habitude. Et donc, j'accepte de réduire de, je sais pas, 10, 20, 30% prix de mes prestations habituelles. Même, je vais mettre des efforts commerciaux et marketing pour, versus signer une mission, bah, en fait, je vais en signer deux. Et donc, en fait, l'addition de ces deux missions-là, in fine, je vais gagner plus d'argent que sur une seule et même plus grosse mission. Et en plus, mon temps de négociation et mon temps de cycle commercial est plus court parce que le prix est moins élevé et donc il y a moins de friction à l'achat pour un client. Mais selon moi, période creuse, je pense qu'il faut rester quand même dans un truc, allez, plus 20, moins 20% selon moi. Si bien sûr vous êtes full client. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire, bah, en fait, ça coûte le double, mais parce que en vrai, je m'en fiche, je veux vraiment pas la signer, quoi. Dans tous les cas, j'ai vraiment pas de temps et si je la signais, bah, ça veut dire travailler le soir, travailler le week-end en plus, etc. Donc c'était vraiment du bonus. Et le pain que c'est pour moi de travailler le week-end et le soir, j'étais OK de l'accepter à partir du moment où je gagnais vraiment beaucoup plus que d'habitude. Mais sinon, je trouvais que c'était un effort, une énergie beaucoup trop élevée pour le faire. En revanche, si vous êtes en période creuse, plutôt que de dire « Ah ben non, je diminue mes prix de 50%, bah, co-prospection, quoi. Prospection, effort marketing, vous avez du temps. Passez pas votre temps devant Netflix ou à chiller ou à scroller sur LinkedIn. En fait, dites-vous « Ok, mon CRM, ok, je refais un check-up sur mon réseau. Quelles sont les personnes qui peuvent être intéressantes? À qui je peux demander des mises en relation? C'est quoi les 20 entreprises que je vais pouvoir prospecter demain? Qu'est-ce que je peux préparer comme petite carotte ou comme petit livrable intéressant dans mes séquences de prospection? À quel point je peux analyser ce qu'ils ont déjà fait, etc. » Bref, je me mets en mode vraiment full focus prospection. Et donc, vous n'êtes plus à vous demander « Tiens, est-ce que je fais varier mes prix ?» mais vous êtes en mode, OK, période creuse, je sais exactement, voilà le process à faire pour aller générer des nouvelles opportunités. Et d'ailleurs, j'ai une deuxième question là-dessus qui était, donc de la même personne, je suis en train de rédiger mes pages de site internet, je pensais mettre un prix minimum de X euros hors taxe sur mon offre pour filtrer. Est-ce que c'est une bonne idée? Du coup, si on reprend la question juste avant, sur le papier, bah, les deux strates, elles ne sont pas du tout compatibles. Hein. Mais en revanche, why not? Encore une fois, selon moi, il y a des critères qui sont importants à prendre en compte. Selon moi, c'est intéressant d'afficher des prix sur un site si vous avez déjà pas mal de volume de demandes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous avez beaucoup de demandes, ce que vous voulez, c'est maximiser votre taux de conversion. Et parce que vous avez fait tellement d'appels et vous avez tellement de volume et de missions en cours que vous pouvez pas... En fait, une heure, vous êtes content de gagner une heure en évitant un appel. Donc en fait, vous voulez filtrer le plus possible dès le démarrage et donc créer une barrière à l'entrée. Et donc, ça vous évite de perdre du temps. Parce qu'en fait, le minimum permet d'évincer une partie des gens. Ce qui est intéressant d'ailleurs, aux États-Unis, ils le font pas mal, de mettre des prix minimum. Mais en fait, on se rend compte que les gens qui mettent des prix minimum sur leur site sont souvent des gens qui facturent très très cher en fait. C'est pas, par exemple, c'est vrai que moi je pourrais le faire sur la partie accompagnement individuel, mais en fait je mets pas assez d'efforts commerciaux et j'ai pas suffisamment de demandes pour me permettre de le faire. En vrai, je préfère encore passer du temps à prendre les différents appels, mais en fait, souvent je le vois, je pense à notamment une nana qui s'appelle April Dunford, qui est une consultante en positionnement aux États-Unis, qui elle a un prix minimum. Et genre, son prix minimum, c'est genre 10K. En fait, mon prix minimum pour travailler avec moi, c'est 10 000 euros. Et en fait, c'est intéressant de voir que ce prix minimum-là, c'est souvent des prix qui sont high ticket. Donc, ça peut être intéressant parce que là, vous faites vraiment un tri drastique entre des personnes qui sont prêtes à bosser avec vous et des personnes pour qui c'est trop cher. Et généralement, le type de clientèle pour ces personnes-là, c'est des personnes qui n'achètent plus seulement vos compétences, mais qui achètent le fait de travailler avec vous, exclusivement vous. Donc, oui, je suis prêt à payer cher, mais pas pour les compétences d'Alexis, mais aussi pour qui il est, ce qu'il a déjà vécu, sa vision des choses, etc., etc. Et donc ça vous demande en amont d'avoir une énorme crédibilité sur votre marché, une forte visibilité et toute une histoire à raconter derrière. Donc, c'est pas déconnant, mais je pense que c'est plus intéressant. Donc, ça peut être contre-intuitif, là, ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est intéressant que vous avez une offre high ticket et d'avoir un prix qui repousse les gens versus le reste. Donc, voilà. Mais selon moi, si vous n'avez pas suffisamment de volume de demande entrante, pour moi, je trouve que c'est overkill parce qu'en fait, quand vous n'avez pas suffisamment de volume et de demande entrante et d'appels et d'opportunités qui arrivent, bah en fait, vous devez prendre tous les appels possibles, tous les rendez-vous, même les rendez-vous qui sont bancals, les prospects qui sont relous, etc. parce qu'en fait, vous voulez vous faire la main. Et ça, c'est un truc qui manque beaucoup. C'est l'expérience qui manque à beaucoup de freelances. C'est, bah, en fait, je suis stressé sur les appels. Bah, c'est normal, en fait. Alors oui, il y a une question de méthode, mais en fait, c'est parce que tu n'en as pas fait assez. Ah, je passe du temps à faire des propositions commerciales. Ouais, t'as un sujet méthode, mais en fait, t'as fait quoi? T'as fait 10 propositions commerciales. Bah, bien sûr que c'est normal que tu passes du temps encore. Que t'en auras fait 30, 40, 50, là, en fait, t'auras un truc qui est hyper clair, tu vas passer beaucoup moins de temps, etc. Donc, en fait, quand vous commencez, ou tant que vous n'êtes pas full et que vous n'avez pas 15 demandes par semaine, en vrai, vous devez chercher à vous confronter un maximum de négociations, de prospects relous, d'objections, etc. Parce que c'est comme ça que vous vous forgez, en fait. C'est ça, votre entraînement. Votre entraînement, c'est pas juste vous devant une glace, c'est vous face à des clients. Même des clients où vous savez que ça va pas signer, faites l'appel. Faites l'appel, ça vous permet de mieux comprendre, OK, ce type de client-là, je ne veux pas les avoir pour telle et telle raison. Ce type de client-là, d'un point de vue data, voilà un peu les critères objectifs de ces clients-là. Et donc, ces clients-là, je veux plus les avoir. Mais en fait, avant de vous dire « je ne veux plus avoir ces clients-là », c'est intéressant de les avoir en call, de discuter avec eux, de comprendre leur pain point, de comprendre les objections et de comprendre pourquoi est-ce que vous n'êtes pas capable de les accompagner parce que vous avez un prix trop élevé, parce que vous n'avez pas une connaissance assez précise du secteur, parce que c'est des clients qui sont très chronophages et vous n'avez pas envie d'avoir des clients comme ça, etc. etc. Donc ça, pour moi, c'est intéressant. Idem, autre truc, pour avoir des prix minimum, pardon, ça vous nécessite de vendre une offre qui est packagée. Parce que sinon, bah, en fait, vous risquez d'avoir un écart trop grand entre le prix minimum que vous affichez et ce que vous allez annoncer au client. Si vous avez une offre un peu tailor-made, sur mesure, etc., et que vous dites bah, c'est prix à partir de 5 et que vous annoncez 10 à un client, le client va se dire bah, attends, le prix minimum il était à 5, tu me dis 10, qu'est-ce qui fait que c'est le double en fait? Et là, c'est beaucoup plus difficile à défendre pour vous sur ce truc-là. Dernier petit truc sur cette partie-là, ce qui est intéressant aussi avec le minimum de X euros. En fait, la finalité de ça, c'est effectivement d'éviter de perdre du temps avec des mauvais clients. Une autre manière de mieux cadrer et de mieux préqualifier un client, parce que là, en fait, ce qu'on appelle de la préqualification. Vous pouvez, avant de prendre un appel, préqualifier un prospect avec quelques questions en lui envoyant un questionnaire avec 2-3 questions. Là, vous allez me dire, le réflexe premier, c'est « Ah bah ouais, trop bien, très bonne idée Alexis, dans mon questionnaire, je vais leur demander c'est quoi leur budget ». La réalité, et c'est pas non plus pour vous le cacher, mais en fait, il y a beaucoup de clients qui ne savent pas combien va vous coûter votre prestation parce qu'ils ne savent pas forcément qu'est-ce qui est inclus dans la totalité de cette prestation-là. Et donc, vous ne pouvez pas en vouloir aussi à des clients de ne pas savoir vraiment, bah, je ne sais pas, est-ce que c'est 5, est-ce que c'est 10, moi, j'en sais rien. Vous pouvez avoir d'autres questions qui permettent de préqualifier un client. Donc, par exemple, si vous êtes, je sais pas, directeur marketing à temps partagé, bah, c'est de demander, c'est quoi le budget marketing mensuel pour faire de la publicité, par exemple, ou c'est quoi le budget marketing mensuel sur du SEO ou sur de l'influence. En fait, le fait de poser des questions détournées comme ça, ça vous permet de voir si vous, votre offre de pricing, elle va être cohérente. Je vous prends un exemple. Si vous êtes face à vous, si en posant cette question-là, en créant des fourchettes pour que la personne puisse se mettre dans ces fourchettes-là, l'entreprise dit bah, « Nous, on dépense 5 000 euros en budget marketing de manière générale chaque mois. » Et que votre prestation, en fait, elle démarre à 5-6 000 euros le mois. Bah, vous comprenez bien qu'en fait, ce n'est pas un bon client. Et donc, vous voyez, vous ne lui avez pas posé la question de quel budget tu as pour nous accompagner, enfin, pour te faire accompagner. Mais rien qu'une boîte qui dépense 5 000 euros, elle ne va pas dépenser 5 000 euros pour l'aider à bosser sur son budget de 5 000 euros. J'espère que c'est suffisamment clair. Mais vous pouvez avoir des questions détournées. Par exemple, c'est ce que je trouve les meilleurs consultants en ads font, c'est quoi votre budget en ads aujourd'hui, combien vous dépensez sur Google, combien vous dépensez sur Facebook, etc. Et ça vous permet de juger vite, tu vois. Entre un client qui dépense 15 000 euros par mois et un client qui dépense 3 000 euros par mois, il ne sera pas prêt à mettre le même prix d'un point de vue prestataire pour accompagner. Et ce n'est pas le même niveau de maturité de client aussi. Donc, ce n'est pas la même profondeur d'offre que vous êtes capable de proposer. Donc ça peut être vachement intéressant. Ça peut être vachement intéressant de poser des questions détournées qui vous permettent quand même de préqualifier un client et d'envisager éventuellement l'intérêt ou pas de travailler avec ce client-là. Voilà. Question suivante. Donc pour cette question, on a un petit peu de contexte et c'est toujours très bien pour bien comprendre la question. Donc, je facture au livrable et certains clients, au nom de la récurrence, espèrent des réductions. Il me semble que tu déconseilles de négocier à la baisse dans les appels de vente, du coup j'en ai parlé, et que tu préconises d'enlever des éléments du devis pour alléger la facture si vraiment le freelance pense que le client en vaut la peine. C'est ce que je disais tout à l'heure, réduire le périmètre de la mission. Mais ici, il ne s'agit pas d'alléger le devis, il s'agit juste de ne pas faire de prix de gros. Du coup, quelle serait ta réponse à un prospect qui te demande « Ok, si je te prends 3 livrables d'un coup, est-ce que tu me fais un rabais de X%?» Et donc, parce que la question n'était pas forcément super claire, et donc je vais demander de redétailler ça, Frédéric. Donc, on peut transférer la situation au copywriting si tu veux. Imaginons qu'un tunnel de vente complet te prend une semaine à faire et qu'un client te dit « J'ai besoin de 5 tunnels par mois, tous les mois jusqu'à la fin de l'année sans interruption. » Ton carnet de gros livrables est plein jusqu'à la fin d'année. Du coup, même si sur ton temps libre, tu factures des séances de coaching consulting qui durent 2 heures, tu sais que chaque semaine, tu vas bosser pour le même client avec ces tunnels de vente et tu ne peux pas intercaler un autre client qui voudrait lui aussi un tunnel. Est-ce que c'est plus clair? Du coup, oui, c'est plus clair. Globalement, c'est bah, qu'est-ce que je fais quand j'ai un client récurrent? Est-ce que je fais un prix, etc. Là, encore une fois, il n'y a pas de bonne manière de faire. Pour moi, les deux stratégies fonctionnent. C'est-à-dire que quelqu'un qui est capable de te prendre potentiellement trois... En fait, quelqu'un qui te sécurise X mois de travail sur une année entière, en fait, moi, je me dis why not pour lui faire un petit prix, tu vois. Soit tu lui fais un prix, moi, ce que je préfère faire, c'est de lui offrir des choses supplémentaires. Donc, par exemple, je crois que dans ton cas, c'est du script. Si, par exemple, un client te commande genre 10 scripts, bah, qu'est-ce qui t'empêche de lui offrir, je sais pas, de lui offrir 3 scripts de short en plus, tu vois. En fait, ça te demande pas tant de travail que ça supplémentaire, puisque l'idée, c'est d'aller choper dans ton script et de redécouper et de faire des petites capsules. Tu n'as pas baissé ton prix. Tu passeras un peu plus de temps, mais ce n'est pas non plus un temps qui est... Enfin, c'est juste une prolongation d'une mission que tu fais déjà. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant et c'est beaucoup plus valorisant d'offrir des bonus, des choses supplémentaires que de diminuer ton prix. Encore une fois, dans le cadre où bah, ce que tu offres est en lien et en corrélation directe avec ce que tu proposes. Donc, par exemple, moi, ce que je faisais parfois, c'était de dire, bah voilà, on va travailler ensemble pendant 3 mois, on va faire une strat édito, derrière je vais te produire des contenus, des articles, des formats longs, etc. Et ce que je te propose en bonus, je t'offre X posts LinkedIn qui vont te permettre de partager ces contenus-là. finalement, en fait, le contenu, je l'ai déjà, puisque j'écris l'article, j'ai bossé le sujet, etc. Donc, je connais déjà les angles, en fait. Et moi, je sais, c'est un travail qui ne me demande pas tant d'énergie. C'est un travail qui demande beaucoup d'énergie à un client et du temps. Moi, c'est un truc qui ne me demande pas beaucoup de temps. C'est une demi-heure de travail par poste. Je peux offrir 3 ou 4 postes en plus si le client, en fait, me fait bosser 50 heures sur 3 mois, en fait. Donc, moi, je le ferai plutôt comme ça. Je le ferai plutôt comme ça. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Frédéric. Et encore une fois, en fait, si vous êtes plein, en fait, c'est à vous de voir si. En fait, c'est à vous de voir c'est quoi la structure business que vous avez envie. Est-ce que vous avez envie d'avoir plusieurs clients? Et dans ce cas-là, en fait, vous ne sécurisez pas vos clients et vous leur dites, en fait, c'est très cool ce que tu me proposes, mais moi, je ne peux pas être à temps plein pour toi parce que j'ai envie de diversifier dans mes clients. Et donc, c'est un choix conscient que je fais. Donc, tu as besoin de moi 4 semaines dans le mois, moi, je pourrais t'offrir que 3 semaines. Est-ce que dans les 3 semaines, on ne peut pas déjà travailler ensemble? Donc, soit vous acceptez de faire ça, soit vous acceptez les règles du jeu qui est, tant mieux, j'ai un client qui me prend pendant 1 an, let's go, quoi. Et donc là, par contre, un client qui vous prend pendant 1 an, faites bien attention, petit contrat, histoire qu'au bout de 6 mois, il ne vous claque pas dans les pattes et que vous n'ayez pas fait tout ce travail de prospection, etc. Parce que vous dites, non, mais moi, je suis tranquille pendant 12 mois, alors qu'au final, ce ne sera pas le cas. Donc voilà, moi, ce que je préfère faire, c'est offrir des bonus et des prestations complémentaires en lien avec ce que je propose déjà, plutôt que d'offrir une réduction. Et si j'offre une réduction, je veux avoir la garantie d'être payé pour X script. Parce que généralement, ce qui peut se passer, c'est ok, je te fais bosser pendant 12 mois, on a 12 mois de travail, on va faire tant d'articles par mois, etc. Est-ce que tu peux déjà me faire une réduction? Le risque, c'est que si je fais une réduction et qu'au bout de 3 mois, ça s'arrête, en fait, j'ai fait une réduction alors qu'on m'a vendu un truc sur 12 mois, mais que finalement, je vais faire que 3 mois avec cette personne-là. Donc, why not? Mais dans ce cas-là, tu prends 50% du montant total sur l'année d'un coup pour être sûr, en fait, de sécuriser le client et que le client ne te dise pas « Ah, je t'ai pris de la promotion et en plus, en fait, j'arrête de travailler avec toi. » Voilà, j'espère que c'est très clair, Frédéric. N'hésite pas si tu as des questions supplémentaires, je pourrais y répondre. Voilà, et écoutez, on a fait 56 minutes de podcast et d'enregistrement aujourd'hui. Encore un épisode bien dense. On est donc arrivé au bout de cet épisode. J'espère qu'il vous a donné matière à réflexion pour votre business. Encore une fois, si vous appréciez le travail que j'ai fourni pour préparer cet épisode-là, qui m'a pris beaucoup de temps, et vous appréciez ce genre d'épisode que j'essaye d'être le plus concret et actionnable possible, vraiment, c'est pas un bullshit de dire ça, c'est que j'essaye que ça soit le plus clair possible pour vous. N'hésitez pas à me le dire, faites-moi un retour, vraiment, ça vous prend littéralement 1 minute. Moi, ça me fait toujours plaisir d'ouvrir mon ordi le matin, de voir des petits messages sur Insta, des stories sur Insta, des petits messages en privé sur LinkedIn. J'ai vu qu'il y en avait même qui utilisaient des épisodes de podcast pour faire des posts LinkedIn en mode voilà ce que j'ai compris de l'épisode. Franchement, c'est trop bien. Moi, j'ai pas de problème à ce que vous fassiez des résumés des épisodes de podcast sur LinkedIn. Ça me va très bien. À partir du moment où vous citez bien sûr mon travail, c'est toujours cool. Donc voilà, moi, c'est toujours trop cool de commencer mes journées et de voir vos petits mots. Moi, ça me régale. Je vous le dis, ça me régale et ça me met en joie et ça me motive pour la journée parce que parfois, j'ai la flemme et donc ça me donne cette motivation supplémentaire. Vraiment, continuez de me faire vos retours et donnez-moi des idées pour les prochains épisodes. Qu'est-ce que vous avez envie d'avoir en tête? Est-ce qu'il y a des sujets en particulier que vous aimeriez que je travaille ou pas? Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours. 2 petites choses. Je sais que certains partagent les épisodes dans leur coworking, etc. C'est très sympa. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, on a Eline qui a découvert mon podcast il n'y a pas longtemps. Donc voilà, comme quoi ça permet à d'autres personnes de découvrir le podcast. Donc n'hésitez pas à partager cet épisode-là s'il vous a plu à un copain freelance de votre choix. Et puis n'oubliez pas de noter l'épisode sur Spotify ou Apple Podcast. En vrai, je crois qu'on est à 15 notes. On doit être à 15... Enfin bref, on est pas loin des 200 notes sur Spotify, ce qui ferait partie des gros podcasts business avec le plus de notes. Donc c'est très cool. N'hésitez pas à le noter sur Spotify. Vous cliquez sur Tribu 1D si vous êtes sur Spotify, sur votre appli mobile, ou bien sûr Apple Podcast. Encore une fois, c'est cool pour mon ego, ça vous prend littéralement 10 secondes. Et je pense que ça a un petit impact quand même sur la visibilité et sur à quel point le podcast est poussé dans les moteurs de recherche de Spotify et Apple Podcast. Voilà. Encore une fois, merci d'être au rendez-vous chaque semaine. C'est tout pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.